Salut ma copse, j'espère que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Donc c'est l'avant-dernier du mois de février. Aujourd'hui, on va parler d'un livre super pertinent qui va nous donner plein de petits tips pour nous lancer dans nos projets sereinement. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet, dans un business, on a tendance à un peu être perdu par tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit organiser, planifier et mettre en place. Donc aujourd'hui, on va voir quelles leçons nous pouvons tirer du livre de Guy Kawasaki, à savoir l'art de se lancer. Donc c'est un outil qui nous partage plein d'outils efficaces qui nous aideront à avancer petit pas par petit pas dans nos projets. Car comme le dit le très célèbre philosophe chinois Lao Tzu, un voyage de 1000 km commence toujours par un petit pas. Donc j'ai structuré le podcast en 9 parties pour en saisir les meilleures leçons. Je te souhaite une excellente écoute. Partie numéro 1, mettre du sens derrière ses actions. Donc de nombreuses personnes se lancent dans l'entrepreneuriat avec pour objectif de générer du chiffre rapidement. Leur objectif premier, c'est l'argent, c'est de s'enrichir rapidement. Leur motivation est donc basée sur quelque chose de matériel, à savoir l'argent. Dans ce livre, on nous enseigne l'importance de mettre du sens derrière son entreprise et ses actions. Ce sens, autrement appelé le pourquoi, permet de garder le cap et la motivation lorsque des jours sombres se profilent. Alors comment créer et donner du sens à ses actions? L'auteur nous propose de formuler un mantra court et puissant qui reflète le sens de notre entreprise. Un mantra, c'est une déclaration simple et fréquemment répétée qui rappelle pourquoi l'entreprise existe. Par exemple, le mantra de Nike est « performant, athlétique, authentique » et celui de Disney est « divertissement, familial et amusant ». En fait, le mantra, c'est un peu la version courte et synthétique de la mission de ton entreprise ou de ton projet. Et il faudra répéter ce mantra régulièrement pour te reconnecter à ton entreprise, pour te reconnecter à ton pourquoi et au sens de tes actions. Ça, c'est important pour garder et la motivation et le cap sur son entreprise. Partie numéro 2, définir des jalons, des phases de tests et des tâches pour mieux avancer. Lorsqu'on se lance dans nos projets, on fait l'erreur de foncer tête baissée dans nos objectifs. Finalement, on ne sait pas trop où on va, on n'a aucune vision sur du court et du long terme et on ne constate aucune progression, ce qui nous invite tout naturellement à abandonner. Dans le livre, on nous préconise de définir des jalons, des hypothèses et des tâches clés. La première chose à faire étant d'identifier ces jalons afin de suivre sa progression. En fait, un jalon, c'est un événement important sur le chemin de ton projet ou de ton business que tu planifies qui va te permettre d'atteindre un résultat. Ça peut être par exemple la finalisation d'un livrable clé ou la prise d'une décision cruciale. Par exemple, le premier jalon d'une startup pourrait être d'obtenir l'étude de faisabilité du concept d'un produit ou bien d'un service qui démontre la faisabilité du projet. Ensuite, la prochaine étape ou le prochain jalon pourrait être l'achèvement d'un prototype fonctionnel. Et le jalon suivant pourrait être la levée de fonds pour avancer sur la production des premiers produits. Chaque événement clé est en fait déterminé en avance. Et les jalons, c'est un peu comme des niveaux à atteindre, des paliers à atteindre. Et pour atteindre ces jalons clés, il faut faire preuve de réalisme quant aux hypothèses formulées. Par conséquent, il faudrait créer une liste d'hypothèses qui nous permettrait de voir si on atteint nos jalons clés ou non. Un exemple qu'on nous donne, c'est par exemple quelqu'un qui veut ouvrir un atelier de couture. Ses estimations et hypothèses sont que les tissus coûteront 1000 euros par mois. Et par la suite, la personne constate que les fournisseurs doublent leur prix et que le textile va finalement coûter 2000 euros. Il faudra soit trouver de nouveaux fournisseurs, soit augmenter ses prix pour pouvoir atteindre son jalon. Et enfin, il faut noter les tâches qui t'aideront à atteindre tes jalons clés. Ce sont les tâches nécessaires pour le développement de ton projet. Partie numéro 3, il faut soigner son positionnement. Pour que ton entreprise marche et fonctionne, il faut soigner ton positionnement. Le positionnement, c'est la manière dont les clients perçoivent ton entreprise. Ton positionnement n'a pas besoin d'être compliqué. Le plus important est qu'il répond clairement à une question. Que fait ton entreprise ou que fait ton projet, ton association, ton produit? Et trouve la bonne réponse à cette question et communique autour de ça. Alors, que faire pour obtenir un bon positionnement? La première chose à faire est de s'assurer que la mission de ton entreprise est comprise et acceptée par les clients. Le cœur de ton entreprise doit se connecter à leurs besoins et à leurs problématiques fondamentales afin qu'ils voient que ton entreprise existe pour répondre exactement à leurs besoins. Ton positionnement doit également être formulé de manière à ce qu'il s'adresse spécifiquement à tes clients cibles. On nous partage un exercice. Imaginons que ton entreprise vend des logiciels de sécurité pour les banques. Lequel des deux énoncés de positionnement est à adopter ? Petit 1, accroître la sécurité des sites web, ou petit 2, réduire le risque de fraude par transaction en ligne pour les banques commerciales. Je te laisse 3 secondes pour choisir l'énoncé le plus efficace. 1, 2, 3, et bien c'est le deuxième qui parlera beaucoup plus aux banques, à savoir les clients cibles. Donc si tu as dit 2, tu as une bonne réponse. Pour avoir un positionnement réussi, il faut que le client sente qu'il a directement besoin du produit ou du service en question. Partie numéro 4. Préparer un pitch qui explique pourquoi tu fais ce que tu fais. Un élément clé pour parler de son projet et de son idée est de préparer un pitch efficace pour présenter ton idée de projet afin que les autres en saisissent l'essentiel. Pour préparer un pitch de qualité, il faut garder en tête 3 choses. Petit 1, toujours expliquer ce que fait ton entreprise en 2 phrases. C'est la première chose que les clients ou partenaires aimeraient savoir. Cette introduction ne doit pas être noyée de détails, CF l'audio sur ces idées qui collent. Il faut que cette introduction soit succincte, claire et précise. Par exemple, nous vendons des logiciels. Petit 2, vulgariser ses propos. Dans son pitch, il ne faut pas utiliser le jargon professionnel que seules les personnes du milieu risquent de comprendre. Il faut que le vocabulaire soit clair et compréhensif par tous. Petit 3, toujours terminer son pitch avec les avantages de ton produit ou de ton service en utilisant un exemple concret qui pourrait montrer au client ou au prospect que ta solution est faite pour lui. Partie 5. Préparer et créer un business plan. Si vous ne prévoyez pas de réussir, vous prévoyez d'échouer, nous dit le très célèbre dicton. Traditionnellement, les entreprises utilisent ce qu'on appelle un business plan. Donc c'est un document écrit formel décrivant les objectifs et les différentes méthodes pour les atteindre. Lorsque le business plan est un document très formel, le rédiger peut sembler être une corvée inutile pour une jeune entreprise ou quelqu'un qui vient de commencer. Mais en réalité, il présente plusieurs avantages. Le premier est que les parties prenantes de ton projet risquent de te demander ton business plan avant d'investir dans ce dernier. Donc si tu es à la recherche d'investisseurs, faire un business plan, c'est non négociable. Au-delà du fait de disposer de financement, la rédaction du business plan peut souvent mettre en exergue des problèmes présents et futurs qui ne se verraient pas sans une analyse et sans la formalisation du business plan. Partie 6. Pour bâtir une excellente équipe, embauche des gens meilleurs que toi. Donc là, il s'agit de conseils pour les personnes un peu plus avancées. Personnellement, je n'en suis pas du tout encore là, mais toute leçon est bonne à prendre. Donc, dans cette partie, l'auteur nous suggère de toujours embaucher des personnes meilleures que nous. Parce que si chaque membre de ton entreprise commençait à embaucher une personne moins compétente qu'elle, l'entreprise se retrouverait très vite avec des personnes peu compétentes. Il faut donc rester humble et admettre qu'il y a des gens plus compétents que nous-mêmes et qu'il est plus favorable pour l'entreprise d'embaucher. Deuxièmement, il faut identifier les personnes de ton équipe qui ne sont pas performantes étant séparées. Cela peut sembler dur, mais tu ne pourras pas te permettre de les garder. Chaque employé a un coût en ressources comme le salaire, l'espace de bureau, le temps de gestion, les formations, et tout cela est gaspillé si la personne que tu as embauchée n'apporte pas de valeur ajoutée, n'apporte pas d'amélioration à ton business. Et l'auteur nous partage des astuces pour identifier les collaborateurs peu performants. C'est par exemple, lorsque tu embauches un nouvel employé, il faut définir des jalons personnels et définir une période d'examen au cours de laquelle tu pourras évaluer ses performances par rapport à ses jalons. Par exemple, si tu embauches une nouvelle vendeuse dans ta nouvelle super boutique, ces jalons clés pourraient inclure la réussite de la formation, le développement d'une base de données client et les 10 premières ventes en magasin. On dit que la période d'examen initiale doit être d'environ 90 jours afin que l'employé et l'entreprise se connaissent suffisamment pour décider de continuer ou non l'aventure. C'est un peu difficile de se séparer de certains employés, mais je pense que c'est nécessaire pour la survie et pour le développement de son entreprise. Partie numéro 7. Choisir des partenaires efficaces. L'une des tactiques pour développer son entreprise, et encore plus avec l'essor des réseaux sociaux, est d'établir des partenariats avec d'autres entreprises. La première chose à faire, c'est d'être sélectif. N'accepte que des partenariats qui auront une incidence positive sur ton business ou sur ton projet. Cela signifie que ton partenaire doit te permettre, par exemple, d'accélérer le développement de tes produits, d'obtenir plus de visibilité, d'obtenir plus de ventes, plus de clients ou de prospects. On nous partage un exemple, celui d'Apple qui s'est associé à Aldus Corporation, qui avait produit un programme de publication assistée par ordinateur appelé PageMaker. Apple avait besoin d'une solide application qui fonctionnerait sur ses ordinateurs, tandis qu'Aldus avait besoin d'un canal par lequel vendre ses logiciels. Donc grâce à ce partenariat, les deux sociétés ont prospéré. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Même si un partenariat doit être bénéfique aux deux parties, il est toujours important d'avoir un plan de secours pour en sortir si besoin. Les circonstances changent, le monde évolue, et si le moment est venu de se séparer et mettre fin à la collaboration, toi et tes futurs partenaires doivent savoir comment y mettre fin. L'établir dès le départ permettra aux deux parties d'être plus à l'aise tout au long du partenariat. Partie numéro 8. Il faut rendre son produit génial et unique. Chaque fondatrice rêve que son entreprise ou son projet devienne un jour une marque de renommée internationale. Alors comment pouvons-nous faire en sorte que notre projet entre dans la légende ? L'objectif principal est de créer des produits et des services qui se popularisent à vitesse grand V. Les gens doivent être enthousiastes à l'idée d'essayer un produit ou d'acheter un service. Donc comment créer un produit qui colle ? CF, encore une fois, l'audio, ces idées qui collent. Premièrement, les produits populaires sont cool. Par exemple, l'iPod a eu un vrai succès en partie parce qu'il était le premier lecteur MP3 cool, coloré et stylé. Deuxièmement, les produits populaires sont efficaces ou excellents dans leur domaine. Le produit ou le service doit être simple et facile à utiliser et à comprendre. Troisièmement, les produits qui collent se distinguent de la concurrence. L'auteur nous partage l'exemple d'un Hummer, c'est une voiture facilement reconnaissable qu'on ne confondra avec aucune autre voiture. Elle est vraiment unique, c'est un design unique. Mais même si demain tu réussis à créer des produits ou des services qui collent, cela ne suffira pas à créer une marque reconnaissable et légendaire. Il faudra aussi créer une communauté autour de tes services et de tes produits. Ces communautés fournissent un soutien aux utilisateurs et rendent l'expérience d'utilisation du produit ou du service encore plus satisfaisante. Par exemple, les fans de Coca-Cola ont créé une page Facebook qui a obtenu plus d'un million d'abonnés. Et en fait, c'est une page qui regroupe tous les fans de Coca-Cola et discute autour de ça. Et ça permet de créer une cohésion de groupe, une cohésion et une certaine synergie. Partie numéro 9. Toujours garder un œil sur les opportunités inattendues. On n'en a jamais entendu parler, mais il y avait une société qui s'appelait Univac, qui était à la tête du marché de l'informatique au début de l'essor de l'informatique. Mais l'entreprise a commis une erreur du jugement. En effet, elle considérait ses ordinateurs comme des outils sophistiqués, exclusivement réservés aux scientifiques, et ne produisait donc que des machines adaptées à des calculs scientifiques bien complexes. Au même moment, une société que tu connais par contre très certainement s'est rendue compte que les entreprises étaient également intéressées par le potentiel de l'informatique et a donc commencé à construire des machines destinées à ce nouveau marché. Le nom Univac a donc été oublié car ils ont disparu puisqu'ils n'ont pas su saisir les opportunités et IBM, que tu connais très certainement, a prospéré car ils ont su flairer cette opportunité. Quelles leçons peut-on en tirer ? Quand on se lance dans un projet, il faut toujours garder un œil sur les opportunités du marché et ne jamais, mais vraiment jamais, sous-estimer ces opportunités naissantes. Le monde évolue très vite, il faut donc évoluer en conséquence. Pour conclure, tu l'as compris, il faut mettre du sens derrière son entreprise, savoir pourquoi on se lance, faire un pitch pour pouvoir parler de son entreprise facilement et efficacement, et collaborer avec d'autres entreprises pour créer une synergie et s'élever ensemble. Et pour terminer, toujours rester attentif aux évolutions et opportunités du marché. Voilà pour cet épisode de podcast sur l'art de se lancer de Guy Kawasaki, j'ai un peu du mal à le dire. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu en as tiré les meilleures leçons pour à ton tour développer un business ou un projet qui cartonne. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et sinon, toi et moi, on se dit à très très vite pour le prochain podcast.